nous pouvons proposer. Vous mettez derrière le mot pastoral la formule qui vous convient. C'est une... Le pasteur de l'église qu'il y en a un, les anciens, le groupe pastoral, ça c'est votre structure qui le détermine. Il me semble que la réalité de l'accompagnement doit être. J'ai cru entendre dans les groupes un certain accord pour dire qu'effectivement, la Bible ne dit rien quant aux cérémonies de bénédiction de mariage dans l'Église. La Bible dit beaucoup de choses sur le couple, mais rien là-dessus. Alors, question qui en découle, d'où vient ce que nous faisons, indépendamment de la valeur que ça a ? Hein, toutes nos églises ont des cérémoniels à l'occasion de mariage. D'où viennent-ils ? Qu'est-ce qui les a structurés ? Pourquoi vous avez ces cérémonies ? Puisque la Bible ne dit rien. C'est-à-dire, rechercher au-delà quelle est l'influence qu'il peut y avoir derrière. Qui imitons-nous sans s'en rendre compte ? Est-ce que finalement, on fait une espèce d'imitation catholique, romaine, sans s'en rendre compte ? Moi, j'ai assisté à une bénédiction de mariage dans une église évangélique qui était à l'américaine, mais le pasteur, en l'occurrence, n'en avait absolument pas conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est tourné vers l'assemblée et a dit « Et s'il y a maintenant parmi nous quelqu'un qui s'oppose à ce mariage, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais ?» Ça marche quand le pasteur est revêtu d'une autorité d'officier d'état civil. Mais dans nos églises françaises, ça n'a aucun sens. Le couple, il est marié, terminé. Et sans se rendre compte, il était porteur d'un modèle qu'il avait certainement... C'était un Français qu'il avait vu à la télévision et il avait reproduit ce modèle. Personnellement, je ne suis jamais passé à la mairie. Oui, je me suis marié en Angleterre. Je me suis marié uniquement à l'église anglicane.
Nous nous sommes mariés,
tout à fait. Où le pasteur, comme pas mal de pasteurs anglais de différentes unions, a une délégation d'état civil par lequel la cérémonie qui a lieu en église a valeur d'inscription à l'état civil. Donc, le certificat de mariage est établi à l'église qui l'a envoyé au consulat français de Liverpool. Alors, dans l'accompagnement, ce qui me paraît, pour moi, fondamental, là je parle vraiment de ma pratique personnelle, c'est la question du langage. À la fois, les mots que moi j'utilise et les mots que le couple va utiliser. Et là, je ne parle pas simplement dans le cadre de la préparation d'une bénédiction de mariage, je parle dans le dialogue pastoral avec un couple en union libre, qui par ailleurs est très content comme ça et ne demande rien, mais que je vais visiter à titre pastoral. Donc, on va parler de leur situation, parce que je crois que c'est juste d'en parler. Il ne faut pas qu'il y ait de non-dit, c'est souvent le non-dit qui pourrit les choses. Donc, j'essaye d'entrer dans le dialogue à partir du langage, parce que le langage est très révélateur de la relation épanouie ou d'une relation, au contraire, silencieuse, mal explicitée, qui unit l'un à l'autre. C'est-à-dire, je vais leur poser la question, comment vous présentez-vous tous les deux à des gens que vous ne connaissez pas, des amis de votre famille, qui dites-vous l'un de l'autre ? Comment présentes-tu une telle ? Et là, c'est assez intéressant de voir que la plupart du temps, parce qu'ils le vivent mais ils ne l'ont jamais verbalisé, ils prennent conscience que quelque chose coince dans le langage. Ils peuvent pas dire mon époux, mon épouse. En général, ils ne le disent pas. si ça n'est pas le cas, époux, épouse, ça suppose un lien juridique, un lien légal. Ils disent rarement mon conjoint, parce que c'est un peu le même sens. Il arrive quelquefois, ils disent mon mari, ma femme, mais c'est jamais très net non plus. Parce que ce sont des mots qui, grosso modo, sont des synonymes. Hein, voilà. Mon conjoint, mon époux, mon épouse, mon mari, ma femme. Ce ne sont pas les mots qu'ils vont utiliser. Mon concubin, oh, jamais. Jamais parce que c'est laid, c'est moche, c'est péjoratif, c'est méprisant. On n'aime pas ça. Et on n'est pas lié à l'étymologie. Enfin, concubin se réduit à étymologiquement qui couche avec. Hein. C'est tout. Hein. L'étymologie, elle est là. Alors, on ne parle pas étymologiquement. Mais le mot n'est pas beau. On ne va pas dire mon amant, ma maîtresse. Parce que amant, maîtresse, en français, ça a quand même le sens d'une relation un peu parallèle, un peu... bon, quand on peut. C'est pas un projet, c'est pas une vie commune. Hein, c'est aux marges. Le terme qui va... être utilisé le plus fréquemment, c'est de dire ben, je la présente comme mon ami, ou je le présente comme mon ami. Et ce mot ami a effectivement pris en français ce sens. Hein, quand quelqu'un dit je vous présente mon ami, c'est pas tout à fait la même chose que dire je vous présente un ami. D'un seul coup, là, le langage devient très, très pointu, très précis, et on n'en a pas conscience. Mais en même temps, ami, bon. Quand on parle d'une conjugalité, quand on parle d'une conjugalité qui ne refuse pas du tout l'idée de se développer dans une postérité, le couple a aussi conscience que ben, c'est pas tout à fait ça. Et puis moi, comment j'en parle quand je m'adresse à eux? Quel est le langage que moi j'utilise? Parce que moi aussi, je dois dire qui ils sont pour moi. Il n'y a pas qu'à eux de dire qui ils sont. Mais moi, je dois le leur dire. Quand j'estime être devant un couple qui a un vrai projet conjugal, ou en tous les cas, le mot projet est utilisé, qu'on peut très bien se marier sans avoir de projet, mais qui a une vraie perspective de couple, hein, qui a une vraie intention de conjugalité. Moi, j'ai appris à utiliser le mot compagnon. Si je suis en dialogue, je vais dire, alors, est-ce que ton compagnon est d'accord avec toi? Ou est-ce que ta compagne est d'accord avec toi? Il n'y a pas de formule parfaite, là. Je crois que c'est... chacun doit trouver le mot qui exprime une réalité, qui l'exprime sans jugement, c'est-à-dire que sans mépris, mais en même temps en disant... Je ne veux pas dire ton mari. Qu'est-ce qu'en pense ton mari? Non, parce que tu n'es pas son mari. La reconnaissance sociale ne l'a pas déclaré comme tel. Alors, compagnon, compagne, ça me paraît un terme qui est potentiellement assez respectueux, assez riche, donc qui ne supprime pas le respect que j'ai de personnes qui ont un projet sincère, un projet fidèle, un projet honnête, et qui, en même temps, respecte le fait que je ne suis pas devant des personnes qui vont faire le parcours d'aller jusqu'à la reconnaissance légale. Mais j'ai appris qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de dialogues se dénouent, ou se nouent, c'est-à-dire se nouent à ce moment-là, à partir de cette réflexion sur le langage. C'est pour moi un des moments où le couple arrive à se poser des questions qu'il ne s'était encore jamais posées jusqu'à là, et entre autres à se poser parce qu'il me semble que ça ne les met pas en accusation. Donc il n'y a pas la politique du hérisson là, qui, se sentant mis en accusation, se sentant en jugement, se replie sur lui-même et devient uniquement pique. Compagnon, compagne, ça dit une chose vraie, ça permet un dialogue. Dans cette perspective hein, du langage et du dialogue, c'est également la question du nom. Une question biblique majeure. Le nom dans la Bible, c'est pas rien. Dans notre culture, le nom, culture française, moi je parle dans le cadre de la société française, le nom du couple résulte du mariage. Et le nom du couple, c'est son identification sociale. Alors même si la loi, aujourd'hui, permet à un couple de conserver les deux noms d'origine, c'est pas très vieux, hein, quelques années, le nom de l'épouse, de la fiancée s'éteignait, et, pour elle en tous les cas, et c'était le nom de son conjoint qui prenait. Quand je discute avec un couple, je leur dis, mais comment faut-il vous appeler? Si je vous envoie une carte postale, qu'est-ce que je mets? Je ne vais pas mettre monsieur et madame. Bon, je peux mettre compagnon et compagne, mais tiens, de ce coup, ça ne marche plus tout à fait. Enfin, vous voyez, ça montre les limites aussi. Hein, envoyer une carte postale, si je mets compagnon et compagne, un tel, une telle, on sent que ça ne passe pas. Et vous, que dites-vous de vous-même? Parce que finalement, pastoralement, la question importante, c'est qu'est-ce que vous dites de vous-même? Qu'est-ce que vous arrivez à dire de vous-même? Et finalement, comment vous êtes rentré dans cette relation-là? Est-ce que c'est... Alors, j'avais évoqué ce matin quelques-unes des possibilités. C'est très rare qu'il y ait une possibilité qui ait été réellement revendiquée. C'est, voilà. Comment vous en êtes arrivé là? Donc, quelle identité sociale avez-vous? Quel nom? Quel nom voulez-vous avoir? Quel nom je peux vous donner? Et là, on est vite, aux limites de l'union libre. Il n'y a pas un nom. Les deux sont maintenus. Et on ne peut pas mettre monsieur, madame. Mon épouse s'appelait Fischer. Donc, nous marions. Donc, monsieur et madame Jolin Fischer, ça passe très bien. Mais, parce qu'il y a couple, ça passe bien. On peut associer les deux. Et monsieur et madame ne passe pas au regard d'une union libre. En France, seul l'état civil a autorité pour établir, pour déclarer que monsieur un tel et mademoiselle une telle sont devenus monsieur et madame un tel ou un tel une telle. Ça n'appartient pas à l'autorité de l'Église. Nous ne pouvons pas déclarer cela. Alors, ça veut dire pour moi, donc la question du langage, elle est fondamentale, et qu'il y a vraiment, on va passer très souvent deux, trois rencontres à parler des mots, à parler du vocabulaire qu'on utilise, et de l'implication qu'il a. C'est souvent le moment où on rentre dans une relation de confiance. C'est le moment où le couple commence à s'interroger sur la sagesse, la pertinence, le pourquoi du modèle dans lequel ils sont entrés. Ce qui n'était bien souvent pas le cas avec... Alors, je vais répondre à une question qui est revenue, j'ai entendu une fois ou deux. Est-ce qu'on peut dire non à un couple qui vient vous voir dans un cadre alors de demande de bénédiction de mariage? Eh bien, il m'arrive, je n'ai pas fait de statistiques, mais souvent de dire non. Alors là, je ne suis jamais obligé de dire oui. Je dis non quand, après un, deux, trois entretiens, j'ai la conviction qu'on attend de moi que je sois un fonctionnaire religieux. C'est-à-dire que j'accomplisse une cérémonie formelle. Et étant pasteur à l'avenue du Maine, dans un lieu prestigieux de l'histoire baptiste et évangélique, avec un superbe temple à l'ancienne, les demandes abondent. Et quand je reçois un couple que je ne connais pas, c'est fréquent, je leur dis, écoutez, on va dialoguer deux ou trois fois, et puis là, je vous dirai, si vous le souhaitez, à partir de ce qu'on a dit, il y aura une suite de dialogue, ou je vous dirai, moi, je ne vais pas plus loin. Et je vous dirai pourquoi je ne vais pas plus loin. Mais il y a des fois des choses étonnantes. J'ai reçu trois ans, j'ai reçu un Congolais qui est venu me voir en disant, voilà, je voudrais que vous bénissiez mon mariage. Je dis, écoutez, il me semble qu'on ne se connaît pas. Il me dit non, mais je dis, vous êtes de quelle église? Il me dit, écoutez, je n'ai pas d'église. Il dit, je cherche, mais je ne trouve pas. Je suis pasteur, je sais ce que vaut ce genre d'argument. Mais j'ai dit, vous êtes là depuis combien de temps? Il me dit, ça fait 7 ans que je suis à Paris, je n'ai pas trouvé d'église. Bon, écoutez, si vous êtes à Paris depuis 7 ans et que vous n'avez pas trouvé un lieu de communautaire, c'est que vous n'avez pas cherché. D'accord? Alors je lui dis très franchement, je dis non à votre demande parce que je ne suis pas un fonctionnaire. Et si je dis oui à toutes les demandes, le jour où vous aurez réellement besoin d'un pasteur, c'est-à-dire que ce sera au sens d'une crise, ce n'est pas moi que vous viendrez voir, parce que moi je serai celui qui dit oui à tout. Mais je vous dis non. Cherchez le lieu où vous voulez impliquer votre vie dans la vie de la communauté, et je suis certain que le pasteur sera très content de vous accompagner. Et je suis remonté chez moi, disant à ma femme, lui je ne le reverrai jamais. Bien, celui je ne le reverrai jamais, il a été présent à tous les cultes et à toutes les études bibliques de ce jour-là, et il est devenu membre de l'Église à la dernière Assemblée Générale. Et le témoignage qu'il a, c'est assez amusant, parce que le témoignage qu'il a rendu, c'est que c'est le nom que je lui ai dit qui l'a encouragé à persévérer dans sa, et à lier sa vie à lui. C'est un témoignage, n'en tirez aucune conclusion générale. La plupart des gens, vous ne les revoyez pas. Il est marié, oui. Alors, bon, je veux dire, c'est quand même un frère congolais. Et il avait assez facilement trouvé un pasteur africain de Paris qui a assuré une bénédiction à ce moment-là. Mais bon, ça, il faut gérer avec les cultures. Hein. Mais, et c'est un garçon que moi, par ailleurs, maintenant, j'apprécie beaucoup. Hein. Mais dire non, ce n'est pas un problème. Si vous ne savez pas dire non, votre oui n'aura jamais de valeur. Et j'ai dit tout à l'heure, je suis pasteur d'une église qui est plutôt conservatrice, traditionnelle. Je ne peux les aider à réfléchir un peu différemment que parce qu'ils savent que je sais dire non. Si à leurs yeux, j'étais celui qui dit toujours oui, ce que je pourrais dire par ailleurs, ça ne les intéresserait pas beaucoup, on n'est pas d'accord sur cette question-là, il fait comme il veut, s'il veut, mais nous, on n'est pas concernés. S'il y a du dialogue entre le conseil et moi-même, si on vit finalement assez bien ensemble, alors que ce n'était pas gagné au départ, c'est, je pense, parce qu'ils ont conscience que je sais dire non. Je sais dire non quand... alors, j'assume la subjectivité, mais ça, on est obligé, hein. Dans la pastorale, il faut assumer la subjectivité à un moment ou à un autre. Il faut essayer qu'elle soit un peu éclairée, mais il faut l'assumer. Je dis non quand l'impression que j'ai dans le dialogue, c'est que les personnes cherchent une cérémonie et que je ne suis pas là pour une cérémonie. Je suis là pour de l'accompagnement spirituel, je suis là pour de la prière, hein, je suis là pour offrir une amitié fraternelle, un soutien, mais pas du cérémoniel. Vous avez compris, au regard de ce que j'ai pu dire hein, depuis ce matin, que je suis aussi extrêmement attentif à ne pas approcher les couples non mariés comme des jouisseurs instables. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est important. Je tiens à dire aux couples... aux unions libres, dans le cadre où je les définis, c'est-à-dire l'union libre qui se réclame d'une fidélité, d'une stabilité, je tiens à leur dire qu'à mes yeux, ils sont respectables, que je ne les considère pas comme des débauchés. Et ça, je pense que c'est important parce que j'ai cru remarquer, dans l'accompagnement, entre autres, de jeunes issus de différentes sensibilités chrétiennes, baptistes, mais loin de là seulement, que la culpabilité qu'ils portaient dans le fait qu'ils étaient en union libre n'était pas nécessairement une culpabilité bien orientée. C'est une culpabilité qui peut être utile, sur laquelle on peut travailler. C'était l'impression qu'ils avaient qu'aux yeux des autres, parce qu'ils étaient entrés dans ce mode d'union. J'ai plutôt rentré que choisi, c'est... le choix se fait a posteriori, mais on y entre, voilà. Qu'ils étaient regardés par des autres comme des pervertis, des débauchés, qu'il y avait un mépris. Et moi, je tiens à leur dire, si votre couple est un couple qui a, à l'intérieur de lui-même, explicité, si vous vous êtes dit le choix que vous faites d'une fidélité réciproque, d'un engagement au-delà de la facilité, à mes yeux, vous êtes honorable. Je n'ai pas de mépris envers vous. Je peux désirer, souhaiter, dans le rôle qui est le mien, je peux vous conseiller une démarche autre. Mais c'est une démarche que je vous conseille pour vous construire, pour vous aider, pour fonder mieux votre relation. C'est pas la régularisation d'une morale qui aurait été mise à mal, et ce n'est pas pour vous faire passer d'un statut de débauché à un statut d'honnête membre d'église. Ma démarche d'accompagnement pastoral, mais je dirais c'est vrai de tous les couples, même le couple idéal qui arrive, qui est dans la virginité totale, qui tient à garder cette virginité jusqu'après la cérémonie d'église, ma démarche envers eux est toujours aussi une démarche d'accompagnement vers plus de maturité sociale, vers plus de maturité spirituelle. Ils sont sur un chemin qui est différent, qui peut-être pour le pasteur que je suis, vous savez, aujourd'hui quand vous êtes pasteur, dans les cas dans la région parisienne, et que vient un couple qui vous dit, ben, vous savez, nous on veut se marier, nous ne vivons pas ensemble, nous n'avons pas couché ensemble, nous attendons avec une certaine impatience le jour de notre mariage, mais nous nous y accrochons, c'est rarissime. C'est surtout rarissime quand le couple comprend que s'il vous dit la vérité de leur vie, vous n'allez pas les mépriser. Et quelquefois, les pasteurs manquent beaucoup de courage. Ça, je me permets de le dire. Quand j'étais pasteur à Bordeaux, est à débarquer chez moi un couple issu d'une autre union d'église, me disant, mais écoutez, voilà, tout est organisé, on doit se marier tel jour, mais le pasteur refuse. Est-ce que vous accepteriez de le faire? Je leur ai dit clairement, je leur ai dit, écoutez, ce que j'accepte de faire, c'est de téléphoner à votre pasteur, que je connaissais, pour lui demander ce que lui en pense. La raison, c'était que lors d'un échange, le couple avait dit, bah oui, on a couché ensemble, ça nous arrive de temps en temps, on ne vit pas ensemble, au sens où on n'a pas le même logement, mais bon. Et le pasteur leur a dit, écoutez, moi je ne peux pas vous marier. J'ai téléphoné à ce collègue avec qui je m'entends toujours très bien, en lui disant, écoute, voilà, tel couple est là, il me demande une intervention là, un petit peu en urgence, moi je ne ferai rien. Bien les dépanner, pourquoi pas, mais je ne ferai rien sans, non pas ton autorisation, mais sans que tu m'aies donné toi ton point de vue. Et ce collègue m'a dit, écoute, si je n'étais pas là, c'est-à-dire à Bordeaux, si j'étais chez moi, c'est quelqu'un qui vient des pays du Nord, de l'Europe, il dit, chez moi, je n'aurais pas hésité à les accompagner jusqu'au mariage. Mais là, je ne le peux pas, parce que je suis dans une structure d'église où il y a un autre pasteur, un pape, et il dit, si j'assure la bénédiction de ce couple, ça va être la crise dans l'équipe pastorale régionale, et une crise qui peut être extrêmement violente. Et il m'a dit, écoute, si tu peux le faire, vraiment, ça me rendra service, et je serai heureux que tu le fasses. Je l'ai fait. J'ai quand même dit à ce collègue, je peux comprendre que des relations avec des papes soient difficiles et créent de la tension, mais que le ministère pastoral suppose quand même du courage, et que le courage de la conviction devant un couple était quand même quelque chose d'important. Refuser pour ne pas susciter une crise dont je sais qu'elle a un peu de mal, parce que j'étais moi-même en crise avec le pape en question et ça a pris, mais pour d'autres raisons, je sais que c'est pas facile. Oui, ça suppose quand même un petit peu de courage, mais la foi, dans sa dimension du courage, pour moi, est quelque chose qui me paraît important. Ce que je veux dire là, ce que je suis en train de dire là, c'est que l'union libre n'est pas nécessairement, j'ai bien nécessairement, elle peut l'être, mais n'est pas nécessairement un problème moral. C'est un problème social, c'est une question sociale, une question de reconnaissance. Il me semble que le critère biblique du couple, sa vérité, c'est le couple qui s'engage réciproquement dans un projet de fidélité, dans un projet de vie commune, et qui, et c'est là où il y a faiblesse, il y a fragilité, il y a défaut, et qui accepte d'être ce couple, non pas dans le secret des amants, mais dans la lumière publique d'une vie qui va devenir une vie familiale, une nouvelle unité familiale. Mais c'est un problème éminemment social, c'est pas nécessairement un problème moral. Le problème moral, si s'il y en a un qui vous dit « ben oui, je l'aime beaucoup, je vivrai bien avec elle, mais vous savez, j'ai une collègue de travail qui est fort aimable aussi, de temps en temps c'est assez sympathique », alors là on passe effectivement, on passe dans ce que clairement l'écriture appelle la débauche. Je suis confronté souvent à des couples où quand je leur dis « mais comment en êtes-vous arrivé à vivre ensemble ?» Qu'est-ce qui fait comment un beau jour vous êtes retrouvé, voilà, à partager le même logement? Bah, sont quelquefois des couples qui étaient amis, copains, fleurs, enfin, toutes choses somme toute naturelles quand on est habité du désir et qu'on cherche à situer ce désir parce qu'un jour on voudrait aboutir à quelque chose de stable. Il y a tous ceux d'entre nous qui sont mariés ont flirté un jour, hein. Ou alors, c'est que c'est votre papa ou votre maman qui vous ont dit qui vous alliez épouser, mais si vous êtes rentré dans un couple avec une relation d'amour, amoureuse, c'est qu'il y a eu quelque part du flirt. Hein. Ou c'est que dans les églises mélonites, ça passe autrement, mais vous seriez les seuls. Hein. Vous seriez les seuls. Vous avez repéré la personne qui... vous savez, cette très modeste sténodactylo, très moyennement belle, assez ordinaire, assez quelconque, et qui pour vous, d'un seul coup, est devenue la plus belle fille du monde. Bon, ben, vous êtes entré dans une démarche pour essayer de lui montrer que vous étiez, vous aussi, le plus beau type du monde, ce qui n'était vraiment pas évident pour les autres, mais pour vous, ça a marché. Donc, cette démarche-là, elle n'est pas scandaleuse en soi. Elle n'est pas scandaleuse quand elle aboutit à une relation stable. Alors, ce qui se passe, hélas, quelquefois, c'est que parce que c'est la culture, alors là, effectivement, c'est l'impact de la culture, il y a une fois où, au lieu de rentrer chez soi après avoir été au cinéma, on reste ensemble, on couche ensemble, on trouve ça plutôt agréable, il faut l'espérer. On passe le dimanche, c'est un samedi soir en général, on passe le dimanche ensemble, le lundi on repart à la fac ou au travail. Lundi soir, on retourne chacun chez soi, mais c'est quand même un peu dommage. Donc le mardi, on revient, puis on reste le mercredi et le jeudi. Le vendredi suivant, on amène son gros sac d'affaires, parce qu'il faut quand même se changer. Il y a des choses qu'on a besoin sous la main. Et puis deux mois, trois mois après, on décide que c'est idiot quand même de payer deux loyers. Vous voyez, la chose se met en place comme ça. Et elle se met en place, et c'est là où le rôle pastoral peut être important, elle se met en place trop souvent dans un silence. Autre que le « je t'aime, tu m'aimes, on est bien ensemble, on est heureux de vivre ensemble, on se donne du plaisir réciproque, tes parents sont gentils, ta mère est moins bonne cuisinière que la mienne, mais enfin quand même, c'est insupportable. » Le rôle du pasteur, là, c'est de dire « mais attendez, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?» À quoi vous êtes-vous engagés l'un envers l'autre? Quelles promesses vous avez échangées? Et il est assez facile, d'ailleurs, en règle générale, de les amener à reconnaître qu'ils ont besoin de réfléchir à ce qui les engage et de dire cet engagement, et qu'ils ont même envie de le dire publiquement. Je dirais que la quasi-totalité des couples en union libre le sont beaucoup plus par accident que par volonté. C'est très rare. Très très rare qu'il y en ait qui disent, mais nous on est comme ça, on veut rester comme ça. C'est rarissime. Voilà, on s'est retrouvés comme ça et personne ne nous a aidés à nous poser les questions qu'on devait se poser. Il y a un accord tacite. Mais nous savons, nous, par l'attachement à la parole, que les choses tacites ont besoin d'être explicitées. Et je crois que la communauté chrétienne a vraiment un rôle extrêmement important à jouer de facilitateur de la parole. D'interroger, non pas par curiosité, parce qu'on est dans l'intime. Et moi, je dis toujours, dans tous les dialogues pastoraux, je dis toujours aux gens, vous savez, je vais vous poser des questions, mais la réponse vous appartient. Et vous avez le droit de me dire, je ne réponds pas à votre question. Ça peut avoir des incidences sur la suite, mais j'étais lundi et mardi à l'école pastorale avec des pasteurs de la Fédération Baptiste et de l'Union des Églises Libres, où on parlait de sexualité. Et je leur dis, vous savez, soyez très attentifs aux questions que vous posez. Ne posez pas des questions inutiles. Ne posez pas des questions qui finalement ne sont nourries que par votre curiosité. Ce besoin d'entrer dans l'intimité, ce besoin de savoir. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Pas grand-chose. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est uniquement, est-ce que ce couple-là a un désir vrai de conjugalité, de fidélité? Est-ce qu'il est prêt à entrer dans une démarche de discipline? Et là, je parle de la discipline, pas de la tradition de l'Église, de la discipline d'évangile, de la discipline de foi, de la discipline conjugale, c'est-à-dire de prendre un engagement qui est l'occasion, alors puisque je parlais de la parole, aussi de dire, nous sommes des êtres de parole. Nous sommes des êtres de parole. Ce que nous ne disons pas n'existe pas. Il faut dire les choses, il faut les penser, il faut les entendre, et les dire, c'est souvent aussi les comprendre. Tant qu'elles n'ont pas été dites, tant que nous ne le sommes pas dit, nous ne le comprenons pas vraiment. Il n'y a que lorsque nous accédons au langage, que nous devenons capables de comprendre ce que nous nous disons. Sinon, ça peut être simplement la répétition des formules. Hein. On répète une formule, tout le monde est content. En vérité, on a rien compris. Et le langage est important. Hein? À des amis ménonites qui ne sont pas très loin, je prends souvent l'exemple, même pour la prédication d'ailleurs, de l'œnologie, l'art du vin. Si vous n'avez pas de langage, si vous n'avez pas le langage du vin, vous êtes incapable de dire ce qu'est un vin. Vous allez dire, il me plaît pas, il est bon, il est pas bon, il est doux, il est amer, vous allez dire le basique. Mais pour dire la différence entre celui-ci et celui-là, si vous ne maîtrisez pas le langage, si on ne vous a pas enseigné le langage pour dire la différence, vous ne vous en rendrez pas compte. Hein, quand vous écoutez les œnologues, des fois vous dites que c'est des baratineurs. Bon, on est d'accord, il y a une part baratin pour certains, c'est sûr. Mais ne vous y trompez pas, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Simplement, ils ont appris un langage qui leur permet d'accéder à des sensibilités, à des différences, à des nuances. Et si vous n'avez pas le langage, vous n'aurez pas la nuance. Vous voyez ? Il y a un lien très fort entre le langage et ce que je suis capable d'éprouver. Bien, quelque part, c'est pour moi au cœur de la pastorale. Le couple vient et vous dit nous voudrions que vous nous mariez. En général, ça se formule plus ou moins comme ça. Hein. On veut se marier, on voudrait que l'Église nous marie. Bon, là, j'ai dit ce matin, je ne veux pas revenir, l'Église ne marie pas, L'Église, elle bénit un mariage.
Elle demande une bénédiction.
Elle demande une bénédiction. Oui, mais là, je suis un peu sacramentaliste. Moi, je dirais même qu'elle bénit. Je crois qu'on a une autorité capable de bénir. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que bénir, voilà, c'est vraiment le genre de mot passe-partout. Hein. Si vous voulez faire une prière passe-partout, vous collez de la gloire et de la bénédiction. Tout le monde dit Amen. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas très bien. Bon. Mon approche pastorale, c'est de... Mais vous voyez que ce que je dis là marche aussi bien pour ces couples un peu en marge de nos us, et puis des couples qui par ailleurs sont très bien dedans, hein, qui sont dans la ligne que l'on souhaite, que l'on désire, etc. C'est aussi valable pour l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu entends par bénédiction? Ou plus exactement, qu'est-ce que tu attends de cette bénédiction? S'il n'y a pas de bénédiction à l'Église, qu'est-ce que ça va changer à ton couple? Si pour une raison ou une autre, ça ne se passe pas, qu'est-ce que ça va changer? Et là, on découvre en général que la plupart, pas tous heureusement, mais la plupart, on sera moins bien mariés. Avec cette idée alors un petit peu romaine hein, quand même, que le vrai mariage c'est là, que ce qui s'est passé le matin ou la veille à la mairie, bon, c'est une obligation administrative, bon, ça n'a pas beaucoup de valeur, c'est là qu'on se marie vraiment. Alors je leur dis, mais non. Là, c'est une des questions qui a été formulée. Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est le don que vous faites l'un à l'autre, le don réciproque, exclusif de l'un à l'autre, et que vous avez la joie de manifester socialement. C'est-à-dire que ce n'est pas un don privé, caché entre nous, mais vous associez les autres à la reconnaissance de ce don que vous vous faites l'un à l'autre. Philippe Manga, que tu as adjoint au maire, tu as une délégation d'état civil ? Alors, Philippe Manga se réjouit d'imposer sa signature. Il a marié son fils, voilà, oui, il enregistre. Et à l'église, on bénit. Mais bénir, c'est quoi ? Bénir, c'est demander à Dieu cette grâce d'épanouir la vie. D'épanouir la vie de ce couple par la manifestation de la vie divine. Bénir, c'est demander à Dieu d'accorder ce plus, ce soutien, cette persévérance, cette patience qui vient de lui, que lui peut donner à ce couple. Alors l'une des questions, c'était, je crois, tourner autour du « Y a-t-il un mariage chrétien ?» Non. Enfin, c'est ma réponse. Non. Il y a un mariage. Et il se trouve que ce mariage peut être un mariage de chrétiens. Et que dans ce mariage de chrétiens, nous attendons de Dieu et nous demandons à Dieu avec foi qu'il bénisse ce couple. C'est-à-dire qu'il fortifie en eux l'engagement de vie qu'ils prennent. Tout commandement divin s'accompagne toujours d'une promesse. Prendre un engagement, le prendre publiquement, et quelque part, alors, là où il y a une particularité, c'est que nous le prenons aussi devant Dieu. C'est-à-dire que nous conduisons le couple à dire, c'est entre vous, mais précisément, ce vous, vous l'ouvrez consciemment, volontairement au regard de Dieu. Vous recevez de lui un commandement de fidélité, d'amour, et avec le commandement, vous recevez la promesse de son soutien. La promesse qui part de sa présence, de son encouragement. Là, on est dans le mariage d'un couple chrétien dans lequel la communauté chrétienne a ce rôle important, témoin de Dieu auprès du couple et témoin du couple auprès de Dieu, lui demandant dans la foi commune sa bénédiction. Alors on me dit quelquefois, oui, mais on est à la merci de la sincérité de... Mais oui, et ben voilà. Mais c'est systématiquement vrai dans l'Église. Dans l'Église, on est toujours à la merci de la sincérité. Vous êtes à la merci de la mienne. Excusez-moi, hein. Je pourrais être complètement en train de vous baratiner.
voyez ce que je veux dire? Je pourrais tout à fait en faire un discours, dire des choses, ça ne me dérange pas. J'ose vous parler parce que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je veux espérer que vous avez un peu de confiance dans ce que je dis, dans, en tout cas dans ma sincérité. Nous avions à Pâques, à l'avenue du Maine, 6 baptêmes. Qu'est-ce que c'est qu'un baptême? Un baptême, c'est aussi la confiance que fait une communauté dans la parole d'hommes et de femmes qui disent « Nous avons rencontré le Christ, nous voulons marquer notre désir d'être ses disciples, et nous voulons le marquer par le baptême. Par le baptême, nous voulons signifier cette alliance que nous acceptons, cet amour de Dieu que nous acceptons. Et nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais c'est une confiance dans la parole. On sait très bien, quand on regarde des statistiques sur 300 baptêmes, au bout de 20 ou 30 ans, vous en avez 200 qui sont à l'évidence des chrétiens qui ont persévéré dans la foi. Vous en avez une centaine, vous ne savez pas trop ce que c'est devenu. Et quelques-uns dont certaines évidences semblent dire qu'ils ont largement renié, abandonné. Mais il est vrai qu'au moment du baptême, qu'au moment du mariage, on est dans une relation de confiance à la parole. Et tout le dialogue pastoral consiste à établir cette confiance, à aider un couple dans sa relation à passer du stade des mots qu'on utilise, parce que ce sont les mots du moment, les mots techniques du moment, et bénédiction peut être un mot technique, à passer au stade du moment où ce mot a du sens. Et que lorsqu'on demande la bénédiction, on a conscience qu'on demande à Dieu quelque chose qui est de l'ordre d'une grâce, d'un privilège. Mais couple, mariage de chrétiens. Un couple musulman, un couple athée, un couple bouddhiste, est tout aussi légitimement couple devant Dieu qu'un couple chrétien. Il n'y a pas plus de légitimité dans un couple musulman que dans un couple chrétien. Pour ça, je rappelais ce matin que le couple est une réalité créationnelle. Le couple chrétien est celui dans lequel, dans la foi, nous faisons appel au Dieu de Jésus-Christ pour que sa présence fasse une différence, manifeste une différence en réponse aussi à la foi du couple. Mais vos voisins, je crois que vous avez peut-être des voisins musulmans, leur couple est tout à fait aussi légitime que le vôtre, ni plus ni moins. Simplement, vous avez cette conscience d'un Dieu qui vous bénit. Donc j'ai dit, je le répète, hein, il y a dans l'union libre à mes yeux, une immaturité sociale, et que j'essaye d'aborder comme telle. Il n'y a pas le péché. Le péché, c'est au sens déterminant. J'aime beaucoup le texte d'Hébreux 13, parce que dans la parenthèse d'Hébreux 13, vous avez associé la condamnation de la débauche et la condamnation de la cupidité. Hein, si vous connaissez le texte d'Hébreux 13, verset 5-6 de mémoire, vous avez une mise en garde contre la débauche suivie immédiatement d'une mise en garde contre la cupidité. Or, probablement parce que c'est des questions de sexe, c'est des questions de plaisir, c'est des questions d'intimité, que ça nous concerne tous, on est hypersensible à ces questions-là, et en général dans les églises, beaucoup moins attentive aux questions de cupidité. Moi, j'ai jamais souvenir, en Assemblée Générale, accueilli de nouveaux membres, qu'on leur ait posé la question « Quel est l'état de ta fortune ?» As-tu gagné cet argent en respectant le droit de tes ouvriers? As-tu respecté les règles mosaïques sur le bien des autres, etc. Jamais, je veux dire, tant mieux d'une certaine manière. Mais il faut avoir conscience que nous avons une hypersensibilité là, et puis que dans d'autres domaines, on sera nettement moins attentif. Je crois que l'Écriture invite à un petit peu d'attention. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Pas de moi, hein, vous le savez. La conséquence de ça, c'est que dans mes entretiens, je demande à Dieu, moi, de me garder dans la conviction que je suis pécheur. Il m'arrive d'avoir des entretiens avec des gens qui sont alors pas simplement dans le beau cas de figure, hein, dans des situations pas possibles. J'essaye de ne pas oublier que le péché est en moi aussi. Et très souvent, entre eux et moi, la différence, ça tient pas à grand-chose. Ça tient à une grâce, ça tient à une parole d'évangile, ça tient à une parole d'éducation, peut-être, mais finalement pas à grand-chose. J'ai eu quelquefois l'impression que nous aimions beaucoup le Jésus des évangiles. Vous savez, ce Jésus qui prend de la distance avec les puissances sociales de son temps. On l'aime, ce Jésus-là, c'est qui tape sur les autorités de Jérusalem, qui les questionne, qui les critique, et puis qui accueille, il accueille les méprisés, il accueille explicitement des femmes en situation conjugale pour le moins bizarre, mais que dans le domaine qui nous préoccupe, notre grande tentation, c'est d'agir à l'inverse. C'est-à-dire finalement être très dur avec ceux qui sont dans les marges et de trouver que l'autorité légale, ce qui est établi, ce qui est porté par les puissances, ça c'est quand même très bien. Et à ce moment-là, on est au risque que l'institution, pour parodier un peu le texte biblique, l'institution n'est plus pour le couple, hein, où le couple est pour l'institution et non pas l'institution pour le couple. Or, comme pasteur, tout ce qui est mis en œuvre, c'est-à-dire l'attitude de l'Église, éventuellement la démarche avec sa partie état civil, pour moi, tout ça est justifié par le bien du couple, pas par la morale. La morale, c'est pour que la chose soit rassurante pour moi, apaisante pour moi, que le couple y soit sensible ou pas, c'est pas tellement important, il a respecté la norme. Peut-être par culture, je me fiche complètement qu'on respecte la norme, je vais pouvoir le dire assez sincèrement. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer à ce couple que le chemin, on va dire traditionnel, hein, n'ayons pas peur des mots, s'il est intelligemment vécu, s'il est abordé avec discernement, est un chemin qui peut être extrêmement encourageant pour eux. C'est un chemin qui peut fortifier leur vie, leur foi et leur projet. Il y avait une des questions qui était très courte et très directe, on va essayer d'y répondre. Alors je vais répondre que pour moi, bien évidemment, pas pour vous, je ne connais pas vos disciplines d'église. Quelqu'un en union libre peut-il être membre de l'église locale ? Au moins c'est direct. Quelqu'un en union libre peut-il être membre de l'église locale ? Ma réponse, alors toujours dans le cadre d'une union libre, dans l'ordre de la fidélité, on est bien d'accord, hein, je le redis, ma réponse à moi est oui. Et alors là, c'est un oui qui s'appuie sur un certain nombre d'expériences. Et entre autres, quand j'étais pasteur à Bordeaux, nous avons accueilli dans l'église plusieurs couples qui étaient en union libre. Nous avons même baptisé des personnes qui étaient en union libre, qui sont devenues membres de l'Église. Ces personnes se sont tous mariées ensuite. Or, personne ne leur a jamais dit « il faut vous marier ». J'ai trois couples, hein, en l'occurrence, en tête. Simplement, je crois que la vie communautaire, l'accompagnement communautaire, le vécu de la communauté les a aidés à sortir d'une situation dans laquelle ils étaient rentrés par conformisme social, parce qu'il y a un vrai conformisme aujourd'hui là-dedans. Hein. Et alors j'ai le cas particulier qui peut-être être utile à réfléchir. J'ai un couple qui est arrivé jeune converti d'Angleterre. Elle était française, lui d'origine réunionnaise, M. Maribone, franco-réunionnais, mais converti dans une église baptiste anglaise avec laquelle nous étions jumelés. Jeunes convertis de quelques mois, ils arrivent dans l'église d'Orléans, et ça se passe très bien, très bons échanges, et nous avions à ce moment-là besoin de responsables de groupes de jeunes. nous étions en panne de responsables de groupe de jeunes. Et ce jeune couple est un jeune couple dynamique, intelligent. Et un jour, ils viennent me voir et ils me disent, bah, écoute, voilà, Richard, on a entendu ce qui se dit dans le temps de prière, ce qui se dit le dimanche. Et nous, on veut te dire que voilà, nous sommes tout à fait disponibles pour encadrer, accompagner le groupe de jeunes. Et là, je leur dis, bah, écoutez, c'est vraiment bien parce qu'on a un gros besoin, mais ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Écoutez, ça ne sera pas possible parce que vous êtes en union libre et je ne pense pas que nous puissions confier le groupe de jeunes à un couple en union libre. Alors, vraiment, ils me disent, mais pourquoi ? Enfin, ben, j'en dis parce que moi, je ne doute pas de la vérité de votre relation, du dialogue qu'il y a entre vous, de la clarté qu'il y a entre vous, mais j'ai une certaine responsabilité, et je sais que si je vous confie des ados, des jeunes adultes, la tentation pour eux va être de lire ça autrement. La tentation pour eux, c'est de dire, ben, les non-responsables sont en union libre, ben, ça ouvre plein de possibilités, n'est-ce pas ? Et ça, non. Je vous accueille, on vous accueille, c'est un jeu, un personnel. Nous vous accueillons dans l'Église, nous reconnaissons votre foi, etc. Mais nous ne vous confierons pas cette responsabilité parce que votre modèle conjugal nous semble ambigu au regard d'ados. Vous ne vous vexez pas, mais voilà. Ils sont revenus me voir un mois après, ils me disent, écoute, on a beaucoup réfléchi, on n'avait pas du tout pensé à ça. Donc nous avons décidé de nous marier. Ils se sont mariés dans les... Mais je pense que c'était le bon moment pour le dire. Parce que c'était la réponse à une demande qu'ils faisaient. C'était pas du mépris, parce qu'on leur dit, mais vous êtes dans l'Église, donc nous reconnaissons votre foi, nous reconnaissons notre fraternité, c'est pas ça qui est en jeu. Simplement, vous avez un modèle social dont nous craignons, et il ne faut pas être naïf, n'est-ce pas ? Nous craignons qu'il soit la porte ouverte à des interprétations beaucoup plus laxistes, et ça, nous ne le voulons pas. Ils se sont mariés. Après, chaque communauté doit assumer ces situations-là selon sa vérité, selon la conviction qu'elle partage. Mais pour moi, il n'y a pas quelque chose de radicalement impossible quand il y a un couple fidèle, il y a un couple qui est dans une vraie conjugalité. Ils se sont mariés, et en l'occurrence, les autres aussi. Dans le domaine de la parole, hein, du langage, je crois que nos églises gagneraient, et c'est certainement difficile, à beaucoup plus de vérité. Moi, je suis un peu étonné en écoutant les uns et les autres, dans pas mal de lieux, les églises dont j'étais pasteur. J'ai l'impression que nous n'avons, comme membres d'église, que des couples qui ont été idéaux. Des couples qui n'ont jamais couché ensemble avant le mariage et qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment est-ce possible ? Or, j'ai des bonnes raisons, et des raisons liées à des entretiens pastoraux, hein, de savoir que c'est très loin, très, très, très loin d'être le cas. Je ne parle pas des Ménonites ici, je ne parle que des Baptistes. Les Baptistes sont des pêcheurs, eux. Alors, bien évidemment, on ne va pas étaler sa sexualité, on ne va pas étaler ses échecs. Je dis tout à l'heure, il y a de l'intime. Et on peut mettre des gens... N'en parlez pas nécessairement avec vos propres enfants, on n'est pas toujours les meilleurs pour accompagner ses enfants. Est-ce que pour autant, on doit laisser planer ce qui, à certains moments, devient quand même un peu du mensonge ? Cette idée que tous, nous avons su dominer nos instincts, notre libido, et que nous avons tous attendu le jour du mariage pour enfin entrer dans cette longue attente. Sortir plutôt de cette longue attente. ni en sortir ni rentrer ce jour-là. Lapsus, j'espère pas révélateur. Parce que nos enfants, nos jeunes, ils ne se laissent pas abuser comme ça. Et si notre langage n'a pas un peu de vérité, je peux dire pas là que nous le sommes tous, hein, loin de là, hein. Mais si notre langage oppose la crudité du réel et du jugement qu'on porte sur le réel à une espèce de situation, tu sais, voilà, 25 ans, c'était vraiment tout autre chose. Ils savent que c'est pas vrai. Ils ont vite fait de se réfugier derrière le fait que le monde a changé. Et ils n'ont pas tout à fait tort. C'est-à-dire, le désir a toujours existé. L'excitation du désir a atteint dans notre société des niveaux de pression énormes. Énormes. Vous ne pouvez pas vous passer d'Internet. Ouais, on aimerait. Trois jours. Le temps de la tombe. Ah, c'est très difficile. Moi, je suis pas du tout un amateur d'ordinateur. Hein. J'en ai un beau, c'est vrai. Juste qu'ils sont là tous les deux. Mais je passe très peu de temps sur Internet. Mais je l'ai. Et le mode de fonctionnement par mail, c'est le basique de bien une grosse part de mon travail. Or, Internet offre tous. Alors, je parle des jeunes, mais j'ai bien conscience que c'est absolument pas que les jeunes, et loin de là, mais une puissance d'excitation du désir qui est terrible. Nos jeunes, ils ont droit à notre compassion, là. Ils ont droit à notre compassion. Parce que nous leur avons mis aussi en main un outil terrible. Terrible. Je disais à ma femme hier, je suis tombé sur, c'est pas un site porno, mais presque, en me trompant d'une lettre. Je tapais, vous connaissez Onelia, la petite association qui vend des pâtes et des oranges. Ça vous dit rien, ça, bon, c'est pas grave. Tu connais ça. Au lieu de taper Onelia, j'ai tapé Annelia, ou un truc comme ça. Poc. J'ai vu surgir une plantureuse chanteuse italienne. Ma femme était dans le bureau, j'ai dit, écoute, je cherchais des oranges, mais c'était pas tout à fait.
Je vais t'en
amener. C'était tout à fait accidentel, mais ce que je veux dire par là, c'est que ayez conscience du monde dans lequel ils vivent. Ayez conscience du monde du lycée, ayez conscience du monde de l'université. Maintenir, alors là je parle pour les jeunes chrétiens, maintenir une discipline de foi, je crois que c'est possible. Mais ça demande une spiritualité certainement beaucoup plus riche que celle que souvent nous arrivons à mettre en place ou à leur proposer. Je crois que nous échouons beaucoup parce que nous restons sur des motivations qui seraient de l'ordre de la volonté. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Mais la volonté en tant que telle n'est pas suffisante au regard des tentations qui sont là, des excitations qui sont là. Il faut qu'il y ait une vraie spiritualité qui porte la volonté. Si c'est qu'une volonté de discipline de soi, de discipline du corps, ça va échouer. Et on peut tomber très vite dans des addictions. Là. Je signale d'ailleurs que l'État français est en train de nous... ça c'est ma minute de politique. L'État français est en train de nous concocter une loi qui risque d'être destructrice socialement sur l'accès libre aux jeux par Internet. Vous allez pouvoir jouer votre argent, l'argent de l'église, l'offrande, l'argent familial. Mais je crois que pour nos enfants, ça peut devenir une tentation qui sera de l'ordre de la tentation de la pornographie ou de l'accès au mystère du sexe par Internet. Là, il y a quelque chose d'assez tragique qui se met en place. Je ferme là ma parenthèse politique. J'ai envie de dire quelques mots sur les couples mixtes, puisqu'on en a peu parlé. Peu parlé parce que, quelque part, à mes yeux, il pose un petit peu moins de problèmes. Donc, des couples légitimes, croyants, non-croyants, chrétiens, exactement, donc personne qui dirait, avec modestie, humilité, mais qui dirait quand même, oui, ma vie, c'est Christ. Des personnes qui diraient, bah non. Non, ma vie, c'est pas Christ. Je redis ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Le couple est une institution créationnelle. C'est pas une institution du salut. Toutefois, parce qu'il faut quand même pas créer une séparation dramatique. Toutefois, bien évidemment, parce que sinon vous ne seriez pas là, la réalité du salut n'est pas sans impact, n'est pas sans conséquence sur le couple. Que ce soit d'un autre ordre légitime, ce qui se passe en dehors de l'Église dans les couples, mais le couple chrétien, ça a du sens. Je suis assez sensible à ce que je perçois, moi, comme la démarche pastorale de l'apôtre Paul autour du chapitre 7 de l'épître aux Corinthiens. Où l'apôtre Paul regarde, il me semble, les situations avec quand même beaucoup de réalisme, accordant de l'importance, une vraie importance au couple, sans pour autant le sacraliser. Alors il y a une chose que j'aurais dû dire, mais à ne plus trop suivre mes notes, je l'oublie, je reviens un petit peu en arrière, dans ce petit mystère de ce qui fait le couple, hein, dans son sens fort. Je crois qu'il y a ce que l'apôtre Paul exprime dans des termes dont je ne pense pas, que la philosophie antique les avait jamais formulés comme cela. Donc c'est quand même quelque chose qui me semble être tout à fait spécifiquement dans l'esprit de l'Évangile. Quand Paul dit « Le mari a autorité » sur le corps de sa femme, et la femme a autorité sur le corps du mari. Je le reformule comme ça. Là, il me semble qu'on a quelque chose qui doit être expliqué, enseigné, et en expliquant cela, on entre dans ce que la relation conjugale a d'exclusive. Mon corps, c'est-à-dire à la fois ma présence, mon assistance. Philippe Manga doit rappeler régulièrement, je pense, que le couple se doit assistance. Hein, je pense que c'est partie des formules officielles. Mon corps, l'assistance, ce que je peux apporter, ma capacité à donner de la jouissance, ma capacité à engendrer, appartient à ma femme. Et ce qui est en elle m'appartient. Et notre couple existe dans cette réciprocité acceptée et revendiquée. Bien, ça, c'est ce que Paul formule aux Corinthiens. Et là, on est plus dans le schéma de reconnaissance sociale et légale avec son importance. On est au cœur même de ce qui fait l'exclusivité du couple croyant et qui doit être dit, quelles que soient les situations, avec beaucoup de clarté. Donc je reviens sur ce Paul, parce que Paul, posant des choses comme ça fondamentales, est capable en même temps de dire, attendez, après, il y a toutes sortes de situations complexes, qu'est-ce qui est le mieux dans chacune de ces situations? Il va même jusqu'à dire, dans le cas où, dans un couple, un des conjoints s'est converti, ils n'étaient pas chrétiens, il y en a un des deux qui s'est converti, eh bien, il dit à peu près ceci: aujourd'hui, tu vis avec une personne qui est devenue chrétienne. C'est-à-dire que ce n'est plus tout à fait la même personne que tu avais épousée. Sous-entendu, le christianisme a un impact extrêmement important dans la vie sociale. Donc, ce n'est plus la même personne. Si ça ne te convient pas, tu peux choisir de te séparer. Le non-chrétien peut décider que le conjoint, l'épouse en l'occurrence, non-chrétienne, ne peut plus être son épouse parce que les valeurs nouvelles qui organisent sa vie, qui pétrissent sa vie, non sont plus celles dans lesquelles ils étaient en union. Alors tu n'es pas obligé de te séparer d'elle, mais si tu estimes qu'elle n'est plus celle qui était, c'est-à-dire que la conversion a créé quelque chose d'assez radical, tu peux en arriver là. J'imagine assez mal que dans nos églises, on aurait un couple non-croyant, bien établi à la mairie avec le livret de famille, etc. Et puis l'un se convertit, l'autre dit, écoutez, ma femme s'est convertie à cause de vous, ça devient invivable à la maison. J'imagine très mal que l'un d'entre nous lui dirait, bah, écoute, séparez-vous. Parce que le divorce, ça n'aime pas du tout. Hein, dire, écoute, tu devrais te convertir, ça. Ça simplifierait les choses si tu te convertissais aussi, ça. Mais oui, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que Paul était capable d'envisager, parce que la culture le permettait aussi, hein, ne soyons pas naïfs, mais était capable d'envisager des solutions qui, aujourd'hui, nous, on aurait beaucoup de mal à avoir la même audace. Alors, c'est intéressant de considérer la question de ce couple en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire avant que le couple lui-même soit formé. Il m'est arrivé de temps en temps, finalement, c'est pas souvent, mais assez régulièrement quand même, qu'une personne chrétienne vienne me dire, ben, vous savez, j'ai rencontré, très souvent c'est ça, un collègue ou une collègue de travail, elle n'est pas chrétienne, il n'est pas chrétien, mais on a beaucoup de sympathie, on a beaucoup en commun, on s'entend très bien. Et on a l'intention de vivre ensemble, l'intention de se marier. Hein, ça peut être une formule tout à fait classique. Quel est mon rôle de pasteur, là ? Je crois que mon rôle de pasteur, c'est de dire à cette personne, j'entends ton besoin, et moi, quand je rentre après ma journée de visite ou mes conférences en Alsace et que je rentre chez moi, quand j'arrive dans mon grand lit, je ne suis pas tout seul. Éventuellement, il y a même une tisane qui m'attend. C'est extraordinaire de rentrer chez soi et de ne pas être seul. Je ne sais pas si vous avez conscience de cette bénédiction. Hein, le jour où vous êtes un petit peu patraque, vous êtes un petit peu malade, il y a quelqu'un qui dit, mais écoute, prendons ceci, prenons cela, ou attends, je vais te préparer une tisane, ou attends, je vais descendre à la pharmacie. Vous n'êtes pas tout seul avec votre maladie, avec votre mal-être. C'est beau ça. Et puis vous avez dans l'église des gens qui sont tout seuls. Ils sont tout seuls, tout seuls, tout seuls. Que ça aille bien, que ça aille mal, ils sont tout seuls. Ils rentrent, il n'y a personne. Il n'y aura personne pour leur dire, mais écoute, je vais aller voir ce qu'il y a dans la pharmacie. La réalité, elle est là, c'est que la solitude est dure. Donc moi, quelqu'un qui me dit, écoute, voilà, je suis seul et je trouve quelqu'un avec qui je m'entends bien, je lui dois la compassion, je lui dois le respect que je dois à quelqu'un qui vit une solitude, donc une forme de souffrance parfois, pas uniquement, mais une forme de souffrance que moi, je ne vis pas. Et je ne vais pas me mettre en juge d'une épreuve, je ne vais pas lui faire porter un fardeau que je ne porte pas, si ça vous rappelle quelque chose de l'Évangile. Par contre, mon rôle, parce que j'ai quand même un rôle pastoral, c'est lui, écoute, j'entends bien ce que tu vis, mais ma responsabilité, c'est de te dire, si tu rentres dans la formule d'un couple mixte, il faut que tu saches que tu rentres rarement dans un lieu d'épanouissement spirituel. Et certainement, dans le premier temps, le conjoint, alors surtout quand c'est le mari qui n'est pas chrétien, le conjoint est tout feu, tout flamme, mais tu peux aller à l'église autant que tu veux, tu peux lire la Bible autant que tu veux, pas un problème. Ça devient un petit problème et ça peut devenir un gros problème. Alors là est ma responsabilité, c'est-à-dire, je n'émets pas de jugement, mais je veux que tu saches que dans ton attachement au Christ, dans le développement, l'épanouissement de ta relation au Christ, le couple mixte va poser problème. Et que c'est rarement, contrairement à ce qu'on pense au départ,
C'est très gentil, ça. Merci. Oui, on a besoin de social. Voilà. Merci. Je vais en profiter au passage. Merci. On n'est pas à jeu égal. Au tout début, quand le couple se forme, quand il vient de se marier, le conjoint chrétien conserve une grande liberté pour vivre sa foi, participer à la vie de l'Église. Moi, j'ai appris qu'au fil des années, ce dialogue se dessèche un petit peu, cette liberté se limite, se restreint, et qu'on peut arriver assez vite à un moment où la personne chrétienne, et surtout quand c'est l'épouse, n'a plus beaucoup de liberté, ne s'accorde plus beaucoup de liberté pour participer à la vie de la communauté, pour être attentive à sa vie spirituelle, parce qu'elle ne veut pas susciter le conflit. C'est pas un jeu égal. C'est la plupart du temps le chrétien ou la chrétienne qui va voir l'espace d'expression de sa foi, de culture de sa foi, s'atrophier, qui aura de plus en plus de mal à la manifester. Et là, mon rôle est clairement de leur dire, si tu t'engages dans cette union-là, alors mis à part le cadre de bien de l'union fidèle, et ça c'est évident, mais est-ce que tu as conscience que ça va te poser des problèmes de développement spirituel, d'épanouissement spirituel, et qu'il y a 9 chances sur 10 pour que ça t'en pose. Là, le rôle de l'avertissement pastoral, de l'attention pastorale est important. Non. Il y en a qui ont changé d'avis, mais pas à cause de moi. Non. Non, mais je crois que c'est important de le dire. Alors, c'est important de le dire. Et comme pasteur, quand je rencontre le couple, c'est encore plus important de le dire aux deux. Et de rendre le conjoint non chrétien conscient. Parce que ça, il n'en a pas toujours tout à fait la conscience qu'il épouse quelqu'un qui n'est pas simplement quelqu'un qui va à la messe. Comme était entre guillemets, hein, quelqu'un qui va à la messe, puis c'est fini. Ça redevient normal après une heure de messe, qui épouse quelqu'un pour qui la relation au Christ, l'écoute de l'Évangile, va imprégne chaque dimension de l'existence, chaque temps de l'existence. Et m'est arrivé de dire à quelqu'un, tu sais, tu épouses un peu le Christ. Alors, je vais me dire quoi ça? Ah, je dis oui, non, tu, quelque part, tu... Sans que tu t'en rendes compte, tu lis ta vie au Christ en la liant à cette personne-là. C'est pas juste une petite pratique religieuse une fois dans la semaine. En aval, c'est-à-dire quand des couples existent, et quand ils arrivent éventuellement comme ça dans l'église, ils arrivent. Alors là, très clairement, moi j'affirme la reconnaissance sociale de ce couple. C'est-à-dire très clairement, je dis à ce couple, vous êtes, à nos yeux, un couple légitime. Et l'Église vous reçoit, vous accueille, je ne parle pas d'ici de devenir membre de l'Église, hein, mais l'Église vous fait entrer dans le cercle de la famille, on sent un peu large, et des amis, comme un couple parfaitement légitime. Et là, ça me paraît être dans la logique, vous savez, de ce verset qui nous semble souvent un petit peu mystérieux d'1 Corinthiens 7, versets 14, 15, 16, là où il est dit, le conjoint non-croyant est sanctifié par le croyant. Et leurs enfants sont saints. Je voudrais dire là, il n'est pas du tout question de salut. C'est pas dire que le conjoint est sauvé par la foi de l'autre. Puisque Paul dit après très clairement, ce qui veut dire que la question se posait déjà aussi à l'époque, sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Sais-tu mari si tu sauveras ta femme? C'est-à-dire que la question de dire, parce que c'est l'argument souvent apporté, oui mais je prie pour son salut, je vais l'épouser et je demande à Dieu qu'il devienne ou qu'elle devienne chrétien, chrétienne. Sais-tu, femme, sais-tu, mari? Là, pour dire ça de manière très claire, la sainteté dont il est question ici me paraît être une sainteté sociale.
espèce de sainteté peut-être un petit peu vétérotestamentaire. C'est pas une sainteté de l'ordre du salut, mais c'est-à-dire le conjoint non chrétien, les enfants issus de ce couple sont tout simplement reconnus dans leur légitimité sociale par la communauté chrétienne. Nous ne vous considérons pas comme des pécheurs. Nous ne vous considérons pas comme des débauchés. Ça représente un handicap dans la vie spirituelle, ça c'est incontournable, mais ce n'est pas un péché. Vous pouvez venir vous asseoir à notre table, vous pouvez être invité, nous vous reconnaissons pleinement comme un couple. Je crois que c'est, personnellement, c'est dans ce sens-là que j'entends cette étonnante parole, hein, le conjoint non-croyant est sanctifié. Il est rendu accueillant, accueillable, acceptable, légitime par celui qui, lui, est pleinement membre de l'Église par la foi. Je perds complètement le sens de l'heure, donc quand on est dimanche, vous me le dites. Il y a un autre point que je voudrais aborder qui est un petit peu aux marges de ça, mais qui finalement va très souvent aboutir à l'union libre, aboutir au couple mixte, un tout petit peu en amont de cela. Je crois que dans nos églises, nous manquons quelquefois d'attention aux personnes, aux vraies personnes de l'Église. C'est-à-dire, nous nous regardons d'une manière un petit peu mythique. Nous portons des définitions d'Église, alors jamais dans nos statuts sont théologiquement bien propres, bien clairs, mais nous portons l'idée couramment qu'une Église, c'est une association de famille, une association de couples, de préférence avec des enfants. Enfin, des couples sans enfants sont aussi l'Église. Le célibataire aussi. Mais dans beaucoup d'églises évangéliques, pas chez les Mennonites, je le sais, mais je vous le dis pour que vous puissiez penser un peu de mal des autres, dans beaucoup d'églises évangéliques, le célibataire, à titre personnel, il n'est pas trop mal accueilli, mais n'est jamais reconnu réellement dans l'Église. Les églises, c'est des familles. Ben non, l'Église, c'est pas des familles, l'Église, ce sont des croyants. Parmi les croyants, il y a ceux qui sont mariés, et il y a ceux qui sont célibataires. Et on peut se retrouver dans certaines églises avec toute une frange, parce que les femmes seules sont nombreuses dans certaines églises, on se retrouve avec toute une frange de personnes qui sont un petit peu marginalisées, normales, sans l'être tout à fait. Et on ne va jamais s'occuper d'elles, jamais être attentive à elles, les personnes, hommes ou femmes, préventivement, en amont du problème qui d'un seul coup paraît, parce que une femme de 35 ans, qui jusque-là avait vécu son célibat tant bien que mal, prend d'un seul coup un peu plus conscience que si ça se dépêche pas, il n'y aura pas d'enfant. C'est important la maternité. Et d'un seul coup, elle se retrouve fragilisée. Alors même fragilisée tout bêtement à des situations de séduction. Parce que, à 20 ans on peut être patient, à 35 ans c'est plus difficile. Et nos églises ont la tête dans le sable. On ne veut rien voir, on ne veut rien entendre, ça doit rester comme ça. Quand de telles personnes se retrouvent quelquefois dans des situations douloureuses, nous avons notre part de responsabilité. Il ne s'agit pas simplement d'essayer de les marier à tout prix, parce que ça, je trouve ça un petit peu idiot. Il faut faire des choses, oui, peut-être, mais... Mais l'attention, la reconnaissance de cette personne, la reconnaissance de sa solitude, de sa souffrance, de pouvoir aussi avoir des lieux d'église où cela se dit, où cela se partage, où cela se porte, ça peut éviter des situations qui seront ensuite extrêmement difficiles à à gérer.
Dans les questions qui étaient abordées, il y en a une disait ceci. Alors, qu'est-ce qui fait le mariage ? Donc, je pense avoir en partie, mais j'espère, répondu. Et on évoquait cette possibilité-là, avec un point d'interrogation, entre autres, le rapport sexuel. Parce qu'un jeune couple, ou moins jeune d'ailleurs, a eu un rapport sexuel, faut-il soit les considérer comme mariés, virtuellement mariés, à marier rapidement ? Alors là, pastoralement, moi, je vous répondrai surtout pas. Mais alors, surtout pas. Ça, c'est vraiment la cosmétique. Je masque le problème en le réglant moralement. Ils ont couché ensemble, ils vont se marier. Personne ne le saura. Nous avons tous bonne conscience. Tout est rentré dans l'ordre. Sauf que bien souvent, on se retrouve avec un couple ensuite en grande difficulté. En très grande difficulté. Le fait d'avoir couché ensemble, qui est fort regrettable, et qu'il faut savoir dire comme tout à fait regrettable, ne suppose pas que le couple est dans le désir de construire quelque chose, et dans la capacité de le construire, et dans la nécessité du dialogue réciproque pour ça. Et que la pire des choses me semble être l'obligation de le faire. Je crois que le pardon existe, que le pardon peut être l'aboutissement aussi d'un processus éventuellement de confession, les formes que ça peut prendre, hein, mais que le pardon est certainement préférable à l'obligation du mariage. Moi, j'ai eu à accompagner, et encore récemment, en l'occurrence, j'ai eu à accompagner un couple d'origine antillaise, qui, dans la chaleur des îles et des adolescents, ont couché ensemble une fois. Venant de milieux évangéliques très étroits, en ont éprouvé un tout petit peu de plaisir et une énorme culpabilité. Et le pasteur leur a dit, mais vous savez, bon, il y a une seule manière de régler ça, c'est que vous vous mariez. Ils se sont mariés quelques semaines avant que j'arrive à Paris. Ils se marient à Paris, en l'occurrence. Et moi, je les ai eus plusieurs fois cette année, parce qu'ils ne vivaient plus ensemble, ils ne s'entendaient plus. Et ils ne s'entendaient plus, entre autres, parce qu'il était devenu évident que leur couple était fondé sur la culpabilité et non pas sur la générosité. Et cette jeune Antillaise, qui est une femme cultivée, intelligente, vivait dans cette idée, alors c'est peut-être particulièrement vrai aux Antilles, un couple qui se forme dans le péché est un couple qui va être maudit. Donc il faut se marier. Le mariage règle les choses, la bénédiction revient. Et puis voilà qu'à son bureau, à Paris, où elle travaille, elle constate que toutes les filles de son âge vivent des choses très différentes. Et puis, ma foi, elles n'ont pas plus d'accidents de voiture que les autres. Ça paraît comme un idiot de dire ça, mais que leur vie ordinaire, se passe plutôt bien, hein, qu'elles sont plutôt épanouies. Et elle se dit, mais qu'est-ce qu'on m'a raconté ? Qu'est-ce qu'on m'a raconté ? On m'a fait croire, et c'est certainement le cas là-bas, on m'a fait croire que ce que j'avais vécu ne pouvait conduire qu'au jugement de Dieu, donc à une vie malheureuse, à une vie d'échec. Puis je vois autour de moi tous ceux qui vivent autre chose et qui le vivent bien. Donc ce sentiment d'un seul coup que toute sa relation... Là, ça va loin, parce que c'est le moment où le point de pastoral, c'est de dire, alors attends, où est la religiosité chrétienne et où est la foi ? La foi dans ce cas-là, de relation personnelle au Christ, et avec ce côté irréductible d'une écoute du Christ, qui peut être communautaire, mais qui est aussi mon écoute. Hein. J'ai entendu ce que les autres ont dit, ils m'ont conduit dans une relation, dans un mariage, et ce mariage tourne mal. Hein, donc, surtout, ne faites pas d'une relation sexuelle, on va dire accidentelle, le levier pour obtenir un mariage. Là, vous risquez fort d'obtenir des gens malheureux, extrêmement malheureux, et de rajouter au péché la souffrance, l'échec et la douleur.
Alors bon, je pense avoir répondu au moins. Il y a encore la question qui posait les critères de discernement pour accompagner. Moi, je dirais qu'il y a le critère, alors je l'ai dit et je le redis, quel rôle on veut me faire jouer. Et une partie de ma démarche consiste quelquefois à refuser, enfin toujours, à refuser le rôle de fonctionnaire religieux pour être investi du rôle d'accompagnateur spirituel. Je dis ça pour utiliser un vocabulaire qui ne nous est pas habituel. Mais je ne peux pas, moi, m'imposer comme accompagnateur spirituel. Ça ne peut venir que de la demande du couple. Mon rôle, c'est de leur dire, voilà, ce rôle-là, je ne le veux pas. Je ne serai pas celui qui va célébrer une cérémonie parce qu'une cérémonie doit avoir lieu parce que vous l'avez prévu. Mon rôle est de vous aider à cheminer au regard du Dieu que vous souhaitez invoquer, pour que nous comprenions ensemble ce que vous attendez là, qui est ce Dieu pour vous, ce que vous en attendez. Et mon rôle à moi est de vous aider à parler entre vous, pour que ce que vous direz ensemble à Dieu soit réellement votre parole. Sans que le discernement il se situe à un moment où je dois dire, d'accord, on va plus loin, ou... Non, j'arrête. J'arrête parce que j'ai la conviction dans ce que l'on dit, dans ce que vous dites, que nous n'arrivons pas à un vrai dialogue. Et je ne suis pas un fonctionnaire religieux. Je ne suis pas là pour faire de la cérémonie. Pas mon rôle. Il y avait, je vais repérer aussi une question, que je revienne dessus, qui était... oui, parce que je voulais peut-être éviter les ambiguïtés. Une des questions commençait ainsi. Si ce n'est pas la mission de l'Église, qui doit accompagner ? Alors, c'est la mission de l'Église d'accompagner. Il faut bien distinguer le fait que le mariage n'est pas la mission de l'Église, mais l'accompagnement d'un couple qui est en demande de la bénédiction de Dieu, c'est totalement... le ministère de l'Église, des croyants, si vous préférez, hein, de le faire. Il ne s'agit pas de leur dire, vous venez pour un mariage, moi j'ai rien à faire avec ça, je suis là pour baptiser et partager la scène. Débrouillez-vous entre vous. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le mariage n'est pas le ministère de l'Église, mais l'accompagnement d'hommes et de femmes dans un temps sérieux, dans un temps fort de leur vie, est quelque chose qu'il nous faut absolument assumer. On n'a pas le droit de le fuir. Après, ce sont vos communautés, dans un mode congrégationaliste, et autant que je sache, les Mennonites sont quand même plutôt congrégationalistes, je ne dis pas d'annerie. Dans un mode congrégationaliste, c'est la communauté locale qui doit dire, nous exigeons, pour qu'il y ait une vraie reconnaissance, nous exigeons que l'autorité civile, selon l'enseignement de Paul, ait été respectée et authentifié l'union, ou... nous pouvons trouver des formes, exprimer des formes d'une reconnaissance, même quand il n'y a pas cela, s'il y a l'engagement d'une relation de respect, de fidélité et d'autorité réciproque sur le corps de l'autre tel que Paul le définit. Le problème que nous avons aujourd'hui, mais voilà, qui ouvre des possibilités, c'est que, strictement parlant, l'État français, la République française, la loi française offre toutes les possibilités. La loi française ne fait pas obligation à un couple d'être marié à l'État civil. Simplement, s'il ne l'est pas, il y a des garanties sociales et patrimoniales qu'il n'a pas. Tout simplement. Oui, c'est ça le problème, il est là. Je parle sous le regard de Philippe. Vous pouvez être ensemble, tout à fait légitimement, heureux, fidèle, sans être passé devant le maire, aucun tribunal ne pourra vous adresser quelque procès que ce soit. Et nous fonctionnons sur cette idée qu'il y a une espèce d'obligation. Mais c'est pastoralement très difficile de trouver une ligne qui assume à la fois la liberté de l'Église, la liberté croyante, mais aussi la dimension pédagogique. Parce que tout ce qu'on peut faire ouvre la porte, mais tout, hein, je dis vraiment tout, ouvre la porte à des récupérations ambiguës. Mais on est obligé d'assumer ça. Vous savez que la loi française, je crois qu'elle a été légèrement modifiée en 2000, mais ou 2000-2002, elle n'a pas beaucoup changé là-dessus, dit qu'un pasteur ne peut pas bénir un couple qui n'est pas d'abord passé à la mairie. Et la loi, alors avec la révision, ça n'a pas dû changer beaucoup, mais la loi d'origine, c'était dans le premier cas attesté, le pasteur pouvait être condamné à traduit en euros, je pense, 750 euros d'amende. Première récidive, il était passible de 5 ans d'emprisonnement. Et à la seconde récidive, ça pouvait aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Bon, pas rien. C'est une loi théorique, c'est une loi qui avait pour but de maintenir la primauté de l'État sur la constitution civile, sur les reconnaissances des États civils, et éviter ces débordements-là. Je ne suis pas sûr qu'elle serait appliquée, encore que avec les problèmes de l'islam et de la lutte contre l'islam, on est capable d'aller dans des aberrations juridiques pas possibles. Mais le doyen Carbonnier, Jean Carbonnier, non seulement protestant, mais je crois vraiment authentique chrétien, qui était doyen de la faculté de droit de Paris, a écrit un article, je dois l'avoir là d'ailleurs, qui fait l'exégèse de ce texte et qui dit très clairement ce que la loi interdit, c'est la bénédiction avant la mairie. Mais la loi n'interdit pas la bénédiction sans la mairie. Ah oui, mais le droit, c'est droit. Hein. Tel qu'elle est formulée, vous n'avez pas le droit, à moins d'accepter, mais vous n'avez pas le droit. Et si vous le faites, c'est que vous acceptez la potentialité de peine qui peut être lourde, de bénir un couple le matin qui, l'après-midi, passera à la mairie. Mais un couple qui ne passerait pas à la mairie, vous avez toute liberté de faire ce que vous voulez. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'églises qui se soient saisies de cette liberté, elle n'est pas simple à vivre. Et entre autres, pastoralement, avec la dimension pédagogique, ça n'aurait pas énormément de sens. Mais ça veut dire que nous devons aussi bien réfléchir à ce que nous faisons, pourquoi nous faisons et ce que nous disons. Quand j'ai posé tout à fait au début, là, cet après-midi, la question de d'où vient ce que vous faites, c'est que très souvent, nous répétons des formules stéréotypées, alors dont on a vérifié quand même que bibliquement, elles tiennent un petit peu la route, mais qui sont, il me semble bien souvent, des échos de ce qui s'est fait dans la tradition chrétienne catholique. Et je crois que nous pouvons avoir beaucoup plus de liberté. Et puisque c'est une cérémonie privée, c'est-à-dire qu'au sens où je réponds à une demande privée, notre liberté d'Église d'adapter ce qui se dit, ce qui s'échange, il faut conclure, donc je vais conclure ainsi, ce qui s'échange, il me semble qu'on a une liberté liturgique, on a une liberté de bénédiction que nous ne savons pas vivre. Nous voulons tout ramener aux formules un peu stéréotypées et qui, de fait, parce qu'elles sont stéréotypées, souvent n'ont pas énormément de sens pour ceux qui les vivent. Moi, j'aime, alors dans la pratique pastorale, je m'arrêterai avec ça, dans l'accompagnement du couple, quel qu'il soit, j'aime bien construire avec eux ce qui va être dit. Et je leur demande en règle générale de formuler eux-mêmes les promesses auxquelles ils s'engagent. Puisqu'il y a bénédiction, cette bénédiction ne peut être qu'au regard de certains engagements. Je ne vais pas bénir un couple qui s'engage à rien. D'accord ? Donc, si vous voulez que l'on prie, quand je dis « je bénis », c'est l'Église, hein, d'accord. Mais je ne vais pas prononcer une bénédiction sur un couple qui ne prend aucun engagement, ça n'a pas de sens. Alors, écrivez ensemble, réfléchissez ensemble à quoi vous vous engagez, et on en reparle. C'est pas un exercice facile. Hein. Moi, des trucs comme ça, je vous en écris des pages et des pages et des pages d'ici demain matin. Hein. Mais eux, ils n'ont pas l'habitude. faut qu'ils en parlent. Ça leur prend déjà du temps. Prévoyez long avant d'avoir quelque chose, parce que c'est pas facile d'en parler. Ils en parlent, ils finissent par commencer à pondre quelques idées. Ils essayent de trouver des textes qui vont leur simplifier la vie, mais je leur ai demandé de ne pas le faire. Moi, je leur ai demandé de dire à quoi vous vous engagez dans ce mariage. Et puis, on en rediscute ensemble. Et je leur demande pourquoi ils s'engagent à ça. Pourquoi cette dimension-là, ils ne l'ont pas évoquée. Voilà. Et les promesses deviennent le lieu d'un dialogue pastoral et aboutissent à des promesses qui seront les leurs. Qui, j'espère, avec beaucoup de modestie, vous savez, dans ces choses-là, on ne maîtrise pas grand-chose, mais auront un petit peu de sens pour eux, parce qu'ils les auront pensés et formulés eux-mêmes. Je voudrais juste terminer en vous rappelant, parce que c'est pour moi un peu de ma paix, de ma tranquillité, là. Nous servons le Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Nous servons le Seigneur dont la bénédiction est plus grande que nos erreurs. Et ça doit être notre paix. Moi, j'ai certainement pour mon ministère... fait des bêtises, fait des choses que j'aurais pas dû faire, choisit des mauvaises options, j'en suis certain. Il me semble que ce qu'il faut, c'est que nous restions dans l'esprit à la fois du service du Christ et du service du prochain, de l'attention à la vie du Christ et à la vie du prochain. Dieu fera avec nos erreurs. Il ne fait pas avec nos infidélités, mais il fait avec nos erreurs. Et voilà, ça c'est notre paix possible. Voilà, merci.